Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 27 mars 2021. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français. Au programme, nous parlerons de la disparition du premier homme dans l'espace. C'était un 27 mars, direction l'année 1968 et la disparition de Yuri Gagarin. Et nous parlerons d'Europe également dans ce programme avec une partie de notre programme Europa Voice et un focus sur les relations entre la Chine et l'Europe, relations qui se tendent, on va le voir dans ce journal. D'ailleurs, c'est l'heure du journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Préoccupation concernant un chaînon manquant dans les cas de Covid, dans un cas de Covid après qu'une infection donc à Brisbane était liée à un cluster précédent. C'est aujourd'hui l'heure de la Terre. À 20h30 ce soir, l'Australie marquera donc cette heure internationale des Earth Hour. Et en sport, en rugby, défaite du 15 de France sur le fil contre l'Écosse, 27 à 23 dans le dernier match des 6 nations. On verra ça tout à l'heure dans le journal des sports. Et on débute donc ce journal avec le Queensland et les recherches qui sont en cours pour trouver un lien manquant sur la contamination par le coronavirus d'un médecin à Brisbane. Les tests génomiques ont confirmé que l'infection de l'homme de 26 ans était liée à un médecin de l'hôpital Princess Alexandra qui avait été diagnostiqué le 12 mars dernier. Les autorités sanitaires ont également confirmé que l'homme avait le variant anglais. 11 sites d'exposition ont été visités par le jeune homme, qui ont été répertoriés dans un centre commercial à Carindale, un Bunnings, un Aldi à Stalford. Les États et les territoires australiens ont agi rapidement pour imposer des restrictions de voyage vers le Queensland. L'Australie occidentale, l'Australie méridionale, les territoires du Nord, la Nouvelle-Galles du Sud, la Tasmanie et l'ACT affirment que les voyageurs des sites d'exposition de Brisbane doivent se faire tester et se mettre en quarantaine immédiatement. Le Victoria a désigné Brisbane et Moreton Bay comme zone orange dans le cadre de systèmes de permis de circulation avec donc certains États. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, demande aux pays les plus riches de donner immédiatement au moins 10 millions de vaccins afin de pouvoir atteindre son objectif de vaccination dans tous les pays, et ce, dans les premiers 100 jours de l'année 2021. On écoute Tedros Ghebreyesus, le secrétaire général de l'OMS. Il condamne les accords privés que les pays ont pu conclure avec des entreprises pharmaceutiques. On l'écoute.
We can't deliver vaccines we don't have. As you know, bilateral deals, export bans, vaccine nationalism, and vaccine diplomacy have caused distortions in the market, with gross inequities in supply and demand. Increased demand for vaccines has led to delays in securing tens of millions of doses that COVAX was counting on.
Alors voilà donc Tedros Ghebreyesus de l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, on reste avec eux, avec l'OMS, et sur une enquête sur les origines du Covid-19 qui est en cours de finalisation. Les responsables chinois ont informé les diplomates des recherches en cours avant la publication attendue donc du rapport de l'OMS qui devrait arriver ces jours suivants. Le rapport était retardé et basé sur une visite qui était faite plus tôt dans l'année d'une équipe d'experts internationaux à Wuhan, la ville au centre de l'infection chinoise. Feng Jingjian, membre de l'équipe chinoise et directeur adjoint du centre donc chinois de contrôle et des préventions des maladies, a déclaré que les experts avaient examiné 4 façons possibles de propagation, notamment à savoir si une chauve-souris porteuse du virus avait infecté un humain. On l'écoute.
After in-depth discussions among the team, experts formed their opinions through votes. They believe that it was likely that the virus was transmitted directly from a host animal to human, or introduced to Wuhan via cold chain foods. Experts believed it was extremely unlikely that the virus was leaked from a lab and transmitted to human.
Voilà donc pour le Covid pour le moment. 13h04, la France a failli au Rwanda entre 1990 et 1994. C'est la conclusion d'une commission d'historiens mise en place par Emmanuel Macron il y a 2 ans. L'enquête, dont les résultats viennent tout juste d'être remis à l'Élysée, décrit la genèse d'un drame annoncé. Léonard Vincent pour RFI.
Un élément surplombe la relation franco-rwandaise d'avant le génocide de 1994, dit le rapport du Clerc. La relation forte, personnelle et directe du président français François Mitterrand et du président rwandais Juvenal Habyarimana. C'est l'un des facteurs expliquant l'obstination de Paris en dépit des mises en garde dans sa lecture ethniciste erronée de la situation au pays des Mille Collines, dit encore le rapport. Le FPR est perçu par l'armée et l'Élysée comme un agresseur extérieur, un parti de l'étranger anglophone, quand le gouvernement de Kigali, lui, est perçu comme le parti de la majorité hutu francophone, garante de la légitimité démocratique. Tel est cet aveuglement continu que dénonce le rapport du Clerc face à un régime raciste, corrompu et violent qui mène à la catastrophe. C'est ainsi que le rapport conclut à une faillite de l'appareil d'État français, produisant un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes. Pour autant, ce n'est pas une complicité, comme certains le disent. Si l'on entend par complicité une volonté de s'associer à l'entreprise génocidaire, dit le rapport, rien dans les archives consultées ne vient le démontrer.
Et c'était Léonard Vincent pour RFI. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les marchés pétroliers subissent des perturbations causées par le blocage du cargo Ever Given dans le canal de Suez. Plus de 200 navires se trouveraient dans un embouteillage maritime à l'extérieur du canal après que le porte-conteneur soit resté bloqué en travers du passage. On écoute le chef de la division des marchés pétroliers à l'Agence internationale donc de l'énergie, à l'AEI. Il s'appelle Toril Bossoni.
I think that you can see maybe the impact on the tanker market will be more severe than for the oil markets per se. As I said, we're not losing any oil supply, but we will tie up tankers for longer if they have to go around. It takes an additional roughly 2 weeks to go around to Cape Horn. So that will tie up the tankers for longer to getting the oil from A to B, which push up the freight rates, freight rates and so forth.
13h07. Ce soir, on s'attend à ce qu'un Australien sur 3 participe à Earth Hour en éteignant simplement les lumières pendant 1 heure. L'opéra de Sydney, le Harbour Bridge et de nombreux autres sites à travers l'Australie seront des points de repère à travers le pays. Ils éteindront leur courant, l'électricité, pour soutenir donc cette Earth Hour. Ce sera à partir de 20h30. Earth Hour, c'est le plus grand mouvement populaire au monde pour l'environnement. Le directeur général du World Wildlife Fund Australia, Dermot O'Gorman, a déclaré que si chaque ménage australien faisait le changement, cela compenserait les émissions de l'ensemble du secteur des transports du pays. On l'écoute.
We're inviting all Australians to sign up and to make the switch for nature for what perhaps is the most important Earth Hour ever. In taking part in Earth Hour this year, you can join millions of people in switching off at 8:30 local time for 60 minutes to show you care about our planet's future.
Voilà, donc si vous voulez participer, c'est à 20h30, il vous suffira simplement d'éteindre toutes vos lumières chez vous pendant 60 minutes, pendant 1 heure. Et d'ailleurs, ça a le soutien, cet événement a le soutien d'un ancien footballeur, un ancien représentant de l'Australie. Il a également joué pour le club de Liverpool, c'est Harry Kewell. On l'écoute.
My Earth Hour switch for nature is never leaving the house without my reusable coffee cup, keep cup. Because plastic is not only clogging up our waterways and landfills, plastic demands 8% of the world's annual petroleum production. And in Australia, 95% ends up in landfills after only a single use.
Voilà donc Harry Kewell sur les tasses plastiques, donc Earth Hour ce soir à 20h30. Le gouvernement britannique a réitéré son soutien aux individus qui ont été sanctionnés par la Chine pour avoir dénoncé ce qu'ils appellent des violations flagrantes des droits humains contre les populations musulmanes des Ouïghours. Pékin a sanctionné 9 individus et entités britanniques à la suite de la décision du Royaume-Uni de rejoindre l'Union européenne. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants avec Europa Voice, l'Union européenne qui sanctionnait des responsables chinois il y a quelques jours. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois, Hua Qingyong, a déclaré que la Chine était obligée de réagir. On l'écoute.
China is firmly determined to safeguard its national sovereignty, security and development interests and warns the UK side not to go further down the wrong path. Otherwise, China will resolutely make further reactions.
Voilà donc les propos traduits du ministre des Affaires étrangères chinois. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab, a déclaré quant à lui qu'il était solidaire des individus et des institutions dont le député Ian Duncan Smith et la commission des droits de l'homme du Parti conservateur. On l'écoute.
It's not going to stop them, it's not going to stop the British government speaking up about the industrial scale human rights abuses taking place in Xinjiang. If the Chinese government want to continue with these blanket denials that anything wrong is taking place in Xinjiang, the obvious thing for them to do would be to allow access to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. As long as they continue to resist and refuse to do so, the international pressure will only continue to grow.
Ouais, donc d'ailleurs les relations entre la Chine et l'Europe, on y revient, je vous le disais en titre dans un peu plus tard dans l'émission au sein de notre segment de l'Europa Voice. La Chine toujours qui a annoncé l'imposition de taxes prohibitives sur l'importation de vins australiens en bouteille dans son pays, alors que les tensions entre Pékin et Canberra se sont exacerbées depuis le début de la pandémie du coronavirus. Un coup très dur pour les viticulteurs australiens puisque la Chine est le premier client à l'international. Depuis les explications avec Grégory.
Des surtaxes allant de 110 à 220%, c'est ce que les autorités chinoises vont imposer à partir de dimanche aux vins australiens en bouteille, et ce pour les 5 prochaines années. C'est là le résultat d'une enquête lancée en août dernier par le ministère chinois du commerce qui accuse les viticulteurs australiens de dumping. Cette nouvelle sanction commerciale contre l'Australie s'ajoute à d'autres mises en place ces derniers mois, visant notamment l'orge, le bœuf ou encore le charbon, dans un contexte de tensions grandissantes entre Pékin et Canberra. Les ventes de vins australiens, déjà soumises depuis août à une taxe préventive de 200%, se sont écroulées ces derniers mois, chutant à 1 million de dollars en janvier contre 164 millions en octobre dernier. Au-delà du vin, c'est tout le commerce entre l'Australie et la Chine, son premier partenaire commercial, qui est impacté. D'après un rapport du ministère australien des Affaires étrangères paru cette semaine, les exportations vers la Chine, hors minerai de fer, ont chuté de 40% depuis la fin 2019. Canberra, pour sa part, n'a pas dit son dernier mot et compte faire appel à l'Organisation mondiale du commerce.
Voilà donc pour le vin et les relations avec la Chine. De très grandes manifestations ont eu lieu au Bangladesh contre la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Dhaka, la capitale du Bangladesh, des rassemblements qui ont fait 4 morts et des heurts avec les forces de l'ordre. Et la visite intervient dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance du pays par rapport au Pakistan. Christophe Paget.
Les heurts ont éclaté dans une petite ville rurale du sud du Bangladesh, à Tazari, où sont basés les principaux chefs du groupe islamiste radical Hefazat al-Islam, auquel appartenaient les personnes tuées. Selon le gouvernement local, les manifestants attaquaient un commissariat en chantant des slogans anti-Modi. Hefazat al-Islam affirme de son côté que la police a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. Plus tôt dans la journée, il y avait déjà eu des heurts dans la capitale Dhaka, lors d'une manifestation anti-Modi près de la principale mosquée du pays. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessés selon la presse locale. De fait, cela fait plusieurs jours que des manifestants accusent Narendra Modi d'attiser les tensions religieuses en Inde et d'avoir incité à des violences contre la minorité musulmane qui ont fait 1 million de morts en 2002 dans l'état indien du Gujarat qu'il dirigeait à l'époque. Ce vendredi à Dhaka, lors de la clôture du festival organisé pour l'anniversaire de l'indépendance du Bangladesh, une cérémonie à laquelle assistait Narendra Modi, la première ministre Sheikh Hasina a elle apprécié l'envoi gratuit par son homologue indien de vaccins contre le coronavirus à ses voisins, parmi lesquels le Bangladesh, et elle a salué l'Inde comme un partenaire de développement.
Et c'était donc Christophe Paget pour RFI. Allez, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 28 degrés. Adélaïde, 22. Melbourne, 20. Hobart, 21. Canberra, 21. Sydney, 27. Brisbane, 30. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Préoccupation concernant un chaînon manquant dans les cas de Covid après qu'une infection ait été détectée à Brisbane et que cette infection est liée à un cluster précédent. Earth Hours sera marqué ce soir à 20h30 en Australie et partout dans le monde. Et on va le voir dans quelques instants dans le journal Les Sports, mais défaite des Français du 15 de France sur le fil contre l'Écosse, 27 à 23. C'est du rugby, c'est le tournoi des 6 nations, mais c'est dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour le journal pour aujourd'hui et on parle de sport dans quelques instants. À tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, on commence avec du rugby et la déception du côté français et une défaite face à l'Écosse à Paris sur le score de 27 à 23. Les Écossais ont marqué un essai en toute fin de match après une erreur de la défense française. Ils auraient pu botter en touche et remporter ce match. Le score était à l'heure actuelle 23 à 20. Mais non, sursaut d'orgueil ou manque de lucidité. En tout cas, les Français ont fait un beau tournoi. Ils finissent second de ce tournoi à destination derrière le Pays de Galles, donc qui remporte le tournoi avec 20 points. Les Français, donc deuxième avec 16 points. L'Irlande, troisième. L'Écosse, quatrième. L'Angleterre, cinquième. Et l'Italie, sixième. On écoute l'entraîneur français Fabien Galthié.
On peut regretter, même si en un moment on a senti qu'on ne pouvait pas aller chercher l'écart et le nombre d'essais. On a quand même plusieurs fois la possibilité de gagner ce match. On peut regretter peut-être la fatigue de l'équipe, il manque parfois de lucidité. Ça fait partie aussi de la réalité. Quoi, hein. Donc, bravo à l'Écosse.
Fabien Galthié pour le rugby en France et en Europe et ce tournoi des 6 nations. On passe maintenant à l'AFL, donc en Australie. Retour sur la deuxième journée du championnat. Jeudi, c'était match avancé donc de cette deuxième journée. Et Carlton qui s'est fait battre sur son terrain par Collingwood sur le score de 106 à 85. Et hier soir, les Cats de Geelong ont battu d'un fil, d'un point, 81 à 80, les Brisbane Lions. Aujourd'hui, il y a 4 matchs. Sydney Swans qui reçoit Adelaide Crows, Port Adelaide qui reçoit Essendon, Saint-Kilda qui reçoit Melbourne et les Gold Coast Suns qui reçoivent North Melbourne. Et demain dimanche, Hawthorn recevra Richmond, Western Bulldog recevra les West Coast Eagles et Fremantle, les Dockers, recevront GWS Giant. Formule 1, c'est une nouvelle fois le début de la saison 2021, qui débute une fois n'est pas coutume à Bahreïn. Vous savez, le Grand Prix d'Australie a été déplacé vers le mois de novembre, donc en fin de saison, pour des raisons sanitaires. Eh bien, Bahreïn accueillera donc le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison 2021. Et dans les essais libres, Max Verstappen, le Néerlandais, a montré toute sa force et meilleur temps de la deuxième séance des essais libres devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Le premier français, c'est Pierre Gasly à la 9e place. Allez, pour terminer, un mot de tennis. Et la numéro 1 mondiale, Ash Barty, qui s'est fait peur à l'Open de Miami avec une victoire en 3-7 au premier tour. Barty a sauvé une balle de match avant de battre Kristina Kuchova sur le score de 6-3, 4-6, 7-5. Barty a même dû remonter un déficit de 5-2 dans le dernier set. Et pour elle, cette victoire est un soulagement. On l'écoute.
Today was really hard work and I enjoyed every single minute of it. I think there's nothing like coming through a test like that. And now I get another opportunity in a couple of days' time to play another tough match and test myself again.
Ash Barty, donc voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Vous aimez le foot? Branchez-vous sur The World Game. Regardez la A-League en ligne, la Coupe du Monde en direct, ou les meilleurs moments sur vidéo. Retrouvez les derniers résultats, les nouvelles et les analyses sur theworldgame.com.au ou sur Twitter.
Les Innocents qui font partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Et De quoi suis-je mort ? Très beau retour des Innocents sur le devant de la scène avec un nouvel album. 13h24 et on va parler maintenant bien notre rubrique rétrospective. Nous sommes le 27 mars, direction l'année 1968 et la disparition, mystérieuse ou pas, du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Nous sommes le 27 mars, notre rubrique rétrospective pour aujourd'hui, direction l'année 1968. Yuri Gagarin, le soviétique, premier homme à être allé dans l'espace 7 ans plus tôt, mourait à l'âge de 34 ans. Il est mort lors d'un vol d'entraînement aux commandes d'un MiG-15, non loin de Moscou. Son décès a été vécu comme un drame national en Union soviétique. Mais plus de 50 ans après, la mort de Yuri Gagarin, donc le 27 mars 1968, reste entourée de mystère. C'est notre rétrospective du jour.
Un mystère à la hauteur de la légende. Gagarin ne peut pas être mort dans un banal accident d'avion après son exploit dans l'espace. Un flou alimenté aussi par le caractère de l'enquête classée dès le début secret d'État par les autorités soviétiques.
Et nous restons en Russie avec le souvenir de Yuri Gagarin, star mondiale, premier homme à voyager dans l'espace, mort dans un mystérieux accident d'avion, un décès qui aujourd'hui encore est un peu un secret d'État.
Il faut dire qu'après avoir été le 12 avril 1961, le tout premier homme à pouvoir observer la Terre pendant un peu moins de 2 heures depuis son orbite à 250 km d'altitude, Yuri Gagarin est devenu le héros parmi les héros, l'homme qui a permis aux soviétiques de gagner la prestigieuse course à l'espace face à l'ennemi américain. De quoi inciter le maître du Kremlin, Nikita Khrouchtchev, a transformé le cosmonaute en une redoutable arme de propagande, envoyé un peu partout dans le monde en mission de paix, mais surtout en symbole de la toute-puissance de l'URSS. Pour éviter tout accident, Gagarin sera même interdit de vol, ce qui va être plutôt mal vécu par cet homme qui était avant tout un véritable passionné d'aviation depuis son enfance. Le 27 mars 1968, le MiG d'entraînement dans lequel il se trouve avec son instructeur s'écrase au nord-est de Moscou. Le drame est immédiatement couvert par le secret d'État, ce qui génère toute une série de rumeurs. On évoque la trop grande proximité d'un autre avion, non autorisé. Il aurait aussi pu être victime du Kremlin parce que trop populaire, ou plus simplement, ivre lors du vol, puisqu'il avait peu à peu pris goût aux réceptions qui lui étaient imposées. En 2011, les autorités russes affirment que la cause la plus probable est une manœuvre brusque du pilote pour éviter une sonde atmosphérique. C'est la version officielle, mais le mystère n'est pas totalement dissipé pour autant.
Ce qui n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs. Parmi les plus romanesques, un complot des services secrets. Plus banal, une panne de l'appareil. La version officielle de la mission d'enquête, révélée il y a 10 ans seulement, conclut à une manœuvre brusque de Gagarin pour éviter une sonde atmosphérique. Manœuvre qui aurait entraîné le décrochage et le crash de l'avion. Un témoin de l'époque, ami du cosmonaute, évoque lui la présence d'un second appareil pendant l'exercice qui aurait gêné le MiG de Gagarin. 50 ans après sa disparition, il reste un des héros préférés des Russes, une légende dont la mort ne peut pas s'écrire sans un voile de mystère qui ajoute un chapitre à un destin déjà singulier, celui d'un enfant des campagnes russes devenu pionnier de la conquête spatiale.
C'est ce refus de dire la vérité qui a fait naître toutes sortes de versions, de l'enlèvement par des extraterrestres jusqu'à un accident à cause de l'alcool. L'auteur d'une de ces versions est allé jusqu'à sortir une photo d'un immeuble où l'on aurait enfermé et caché Gagarine.
Le secret autour de la mort de Gagarine déchaîne les passions et les différentes versions de l'histoire posent cette question. Pourquoi faudrait-il cacher la vérité autour de sa disparition ?
Souvenez-vous, le 12 avril 1961, c'était à Moscou. Les tramways s'arrêtaient, les hommes lançaient leurs chapeaux en l'air de joie. Les écoliers désertaient l'école. La Pravda titrait en caractère rouge un événement important dans l'histoire du monde. En effet, Youri Gagarine venait d'effectuer le premier tour du monde en orbite. Jacques Violet retrace les faits.
12 avril 1961, 7h07 à Baïkonour, en Asie centrale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être humain quitte la Terre pour en faire le tour. On ignore alors tout sur les effets de la pesanteur. Personne ne sait si l'homme peut résister, vivre dans l'espace. Youri Gagarin, 27 ans, peut enfin vérifier que la Terre est bien ronde. Il restera 108 minutes dans l'espace, un seul petit tour de Terre, à environ 200 km d'altitude et 28 000 km/h. Installé, ou plutôt recroquevillé dans une minuscule capsule, le vaisseau Vostok, équipé d'un curieux siège éjectable. Gagarine rentrera sur Terre entier et en pleine forme. Le monde entier est stupéfait qu'un homme soit revenu du ciel. Il est accueilli en véritable héros. Nikita Khrouchtchev lui-même avait fait le déplacement à l'aéroport pour le recevoir avec des fleurs. Personnage fait de fierté et de tendresse, le voici avec ses parents, son épouse et l'une de ses filles. Gagarine était alors de toutes les manifestations officielles, de toutes les fêtes. Et dans le contexte politique de l'époque, le commandant de l'armée rouge allait jouer un rôle d'ambassadeur itinérant dans le monde entier. Il est venu 3 fois en France, acclamé par des foules considérables. Il expliquait les succès soviétiques dans l'espace. Lorsque soudain, le 27 mars 1968, la radio soviétique annonce la mort du héros dans un banal accident d'avion. C'était un vol d'entraînement sur un MiG-15, un avion démodé. Alors le doute s'installe sur les circonstances de la mort de Gagarine. Essayait-il un nouveau prototype ou préparait-il un vol spatial ? Le secret officiel entoure toujours cet accident.
Vous êtes avec Radio SBS en français. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était donc Feu Chatterton et cette chanson Monde Nouveau qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. 13h35 minutes, courte pause et on revient après dans l'émission où nous allons parler de relations chinoises et européennes, donc de l'Union européenne. Extrait de notre podcast Europa Voice que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Il vous suffit juste de choisir ou de chercher le mot Europa Voice. Voilà, courte pause et on parle d'Europe tout de suite après. Europa Voice numéro 76 déjà, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on va parler de sujets très importants aujourd'hui, la vaccination et le plan vaccinal européen, mais ce sera après la Chine, puisque l'Union européenne a pris des mesures contre la Chine, et c'est tout autour de la situation des Ouïghours. Expliquez-nous un petit peu tout ça, parce que ça fait un petit moment que c'était pas arrivé, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important du point de vue de la diplomatie européenne.
Alors effectivement, Christophe, on parle de la relation de l'Union européenne avec la Chine par rapport à cette question de la minorité ouïghour, donc minorité musulmane en Chine et une décision qui a été prise ce lundi par les ministres des Affaires étrangères européennes pour réagir justement face au sort qui est réservé aux Ouïghours avec des sanctions diplomatiques, un gel des avoirs de 4 responsables chinois et une interdiction de séjour sur les territoires de l'Union européenne. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait c'est une sanction qui n'est pas que symbolique, hein, ça montre véritablement la prise au sérieux de l'Union européenne par rapport à cette question du traitement de la minorité ouïghour par le régime communiste chinois et par la majorité chinoise.
Alors on en parlait juste en ouverture de ce programme, c'est pas souvent que l'Union européenne a pris des sanctions contre certains pays, encore moins souvent envers la Chine. Je crois que ça date de 1989, la dernière fois qu'il y avait eu une vraie sanction envers la Chine d'un point de vue européen.
Effectivement Christophe, ces sanctions contre le régime chinois, c'est la première fois depuis 1989 et après les événements de Tiananmen que l'Union européenne a sanctionné la Chine. Donc ça montre aussi une étape qui a été franchie dans la relation entre la Chine et l'Union européenne. On sait, hein, les relations ont parfois été tendues, hein. Il y a des négociations en ce moment entre les deux entités qui sont déjà assez fragiles, hein. On parle d'un accord sur les investissements dont, très franchement, même au-delà de cet épisode ouïghour, on n'était pas sûr de la finalisation. Et donc, on le voit bien, hein, c'est historique, hein, c'est un événement historique. C'est de nouveau un durcissement des relations par rapport à cette question de la minorité ouïghour. Mais du côté chinois, Christophe, on n'a pas tardé non plus à réagir. Vraiment, hein, œil pour œil, dent pour dent, la Chine a appliqué la loi du talion. Il y a eu ces sanctions annoncées par les autorités européennes en ce début de semaine. Et directement, à la suite de la décision de l'Union européenne d'inscrire donc ces 4 dirigeants et une entité de la région chinoise du Xinjiang, donc là où sont les minorités ouïghours, sur une liste de sanctions pour les violations des droits de l'homme, bah, immédiatement, le régime communiste chinois a pris des mesures de rétorsion à l'encontre d'un certain nombre de personnalités de l'Union européenne, dont peut-être celui qui est le plus médiatique, en tout cas le plus connu de notre audience française, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, fils de André Glucksmann, et vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, qui, Christophe, depuis quelques mois, quelques années, est vraiment à la tête de ce combat, j'allais dire, pour dénoncer ces violations de la minorité ouïghour en Chine.
Est-ce que tout ça, ça aussi, la réponse ça va être oui, mais on va détailler ça, c'est de comprendre les enjeux diplomatiques à travers la planète, parce qu'on sait que l'Europe a un certain set d'alliés et les Chinois ont un certain set d'alliés. Donc forcément, les Américains, les Russes, où se joue ce débat diplomatique? Et j'allais poser la question, quid de l'Australie? Est-ce que l'Australie prend part dans cette espèce de débat, de combat qui se passe entre la Chine et l'Europe?
Alors, pour répondre à cette question, on va juste faire d'abord un petit pas en arrière pour bien comprendre, hein, quel est le sujet. Il y a 3 accusations principales qui sont faites par l'Union européenne au régime communiste chinois. Il y a le fait d'interner, en fait, dans des camps une partie de la population et de les soumettre à la fois du travail forcé et des campagnes de stérilisation. Et ce qui est intéressant, Christophe, déjà, c'est que la Chine ne dément pas catégoriquement les 3 accusations. Elle dément effectivement l'organisation d'un travail forcé à l'intérieur de ces camps et, bien sûr, les campagnes de stérilisation, mais elle acte le fait que effectivement une minorité ouïghour, en dépit des traités internationaux, est interné dans des camps. Sauf que la justification pour le régime chinois, c'est de dire que ça permet d'isoler des éléments terroristes perturbateurs au sein même de la minorité ouïghour. Donc déjà, ça c'est important. C'est-à-dire que quand on fait des relations internationales, souvent ce qui coince, c'est le fait qu'on n'est pas dans 2 paradigmes identique, hein. Si je simplifie un peu les questions autour du terrorisme, on a longtemps buté sur le fait que, en fait, par exemple, le rapport à la vie, le fait de considérer la valeur d'une vie humaine, ben, n'était pas la même pour des démocraties occidentales qu'elle l'était pour certains régimes qui considéraient que la mort en martyr était quelque chose d'important. Donc là, c'est aussi important de rappeler que on est dans des paradigmes où, pour la Chine, ben, il n'y a pas de problème d'isoler une partie de sa population et d'isoler beaucoup plus de monde que de personnes suspectées d'appartenir à une organisation terroriste ou à des éléments terroristes. Donc ça, c'est le premier élément. Après, sur la question de l'impact de cette relation tendue entre l'Union européenne et la Chine à d'autres acteurs de la planète, et après on viendra sur la question de l'Australie, oui, ça a des impacts, ça a deux impacts. D'abord, c'est une décision qui montre que l'Union européenne est en train de se construire aussi une identité politique. Ça permet d'affirmer, peut-être après l'épisode du Brexit, où on a vu un bloc uni face au Royaume-Uni, ça permet d'afficher aussi une unité politique, chose qu'on a souvent reproché à l'Europe de ne pas avoir. Donc ça permet de solidifier cette unité politique. Mais l'Union européenne n'est pas seule à la manœuvre, puisqu'elle a des alliés de taille, notamment les États-Unis et le Canada. Et pour les États-Unis, c'est aussi une véritable nouvelle impulsion de l'administration Biden, parce qu'on pensait qu'il allait avoir un infléchissement après la présidence de Trump, et en fait pas du tout. Joe Biden continue aussi dans cette relation tendue avec la Chine. Après, et c'est là où on va venir à l'Australie, c'est que la Chine, se sentant isolée, évidemment se retourne aussi vers la Russie. Et c'est là où on voit que ce n'est pas simplement au niveau de la relation Union européenne-Chine que l'épisode ouïghour va avoir des conséquences, c'est sur toutes les constructions politiques qui peuvent aujourd'hui peser dans la marge du monde. Moscou, en fait, soutient Pékin dans cette affaire des Ouïghours, parce que ce contentieux entre l'Union européenne et la Chine est intervenu le jour même où le ministre russe des Affaires étrangères était, lui, en déplacement officiel en Chine. Et il a d'ailleurs qualifié les sanctions, notamment les sanctions américaines, d'imprudentes. Et il a clairement exhorter Pékin à coopérer davantage avec la Russie qu'avec le bloc européen. Donc on le voit, c'est à chaque fois que vous avez une tension dans les relations internationales entre deux acteurs, vous avez d'autres acteurs qui frappent à la porte. Et puis là, on le voit, c'est la Russie qui propose à la Chine de se tourner davantage vers elle. Pour une autre raison aussi, Christophe, c'est que la Russie elle-même avait dû subir l'ire de l'Union européenne sur certains dossiers, dont le dossier tchétchène. Donc, si vous voulez, la Russie a aussi l'impression que l'Union européenne reproduit son rôle de tenseur professoral avec la Chine, de la même manière qu'elle l'avait fait avec la Russie.
Et l'Australie dans tout ça ?
Alors, et l'Australie dans tout ça, Christophe ? Alors, sur ce dossier-là, en tout cas, pour l'instant, l'Australie est en retrait, ça les concerne pas. Mais ce qui est vrai, encore une fois, c'est que le fait que la Chine se retrouve de plus en plus isolée sur cette scène internationale, ça va donner aussi des opportunités à l'Australie, au sein de la région Pacifique Sud notamment, de développer, de diversifier ses relations avec d'autres entités, finalement de prendre aussi moins de risques, parce qu'il y a énormément d'investissements bilatéraux entre la Chine et l'Australie. Et on le sait, une des prérogatives et une des volontés de l'Australie, c'est de véritablement créer un noyau de coopération, notamment économique, pour dépendre beaucoup moins des investissements étrangers chinois. Et donc, indirectement, Christophe, cet épisode, ça conforte la position australienne aussi, de travailler à cet axe Paris, New Delhi, Canberra, l'Indo-Pacifique, tous ces États du Sud-Pacifique avec lesquels l'Australie veut déplacer un petit peu le noyau classique bilatéral des relations entre la Chine et l'Australie elle-même.
Julien Doré avec cette chanson « Nous », le son très particulier de Julien Doré qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars, 13h49. Allez, depuis cette semaine, à Sydney, l'un des opéras les plus importants au monde, la Traviata, est joué en plein air sur une scène au-dessus de l'eau, c'est dans la baie de Sydney, et ce devant près de 2000 personnes, peut-être tendance à l'oublier ici, où la pandémie n'est presque plus qu'un vieux souvenir. Eh bien, à l'heure actuelle, c'est un privilège extrêmement rare au niveau mondial de pouvoir assister à de telles représentations. Et notre correspondant à Sydney, Grégory Pless, y a assisté mercredi soir à la répétition générale. Reportage.
Après des jours de pluie torrentielle à Sydney, le soleil est enfin de retour. Juste à temps pour cette première nuit à l'opéra en plein air. La scène est installée sur l'eau dans la baie de Sydney. Un cadre tout à fait exceptionnel d'après Yann.
Sydney Harbour is a magical place. And I think anyone who comes to Australia just walks away just going, wow. And that's the best way. And to see an opera here, it's just amazing.
Ce soir, le port du masque est recommandé mais pas obligatoire, alors que plus de 2000 spectateurs sont attendus. À l'image de Noah, tous ici ont conscience qu'ils s'adonnent à un plaisir devenu très rare en période de pandémie.
I think we've been very sensible from the get-go, and we've had restrictions that have been not nice for a lot of people, but I think they've helped us, and we've reopened the world for the arts, and we are incredibly lucky.
La Traviata sur l'eau à Sydney, c'est tous les soirs sauf le lundi jusqu'à la fin du mois d'avril. Un spectacle qui rassemble sur scène plus de 70 artistes, et comme si ça ne suffisait pas, un feu d'artifice est également tiré chaque soir.
Voilà, donc de l'opéra sur l'eau, ça vaut le coup. Si vous êtes à Sydney, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Allez, on va 13h58, on fait un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et le titre dans l'actualité, c'est bien entendu la préoccupation qui concerne un chaînon manquant dans un cas de contamination à Brisbane. Et c'est une infection qui serait liée à un cluster précédent. Ce soir, 20h30, n'oubliez pas, c'est Earth Hour marqué en Australie et partout dans le monde. Et on l'a vu en sport, la France, le 15 de France qui perd contre l'Écosse 27-23 dans les dernières secondes du dernier match des Six Nations pour cette année. Voilà, c'est la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Je vous souhaite un bon après-midi à tous, un bon appétit. Si vous êtes toujours à table, prochain rendez-vous avec le français, c'est demain à 13h avec Grégory. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.